élargir même nos prières pour qu'elles soient plus bibliques, plus solides, et ça nous aide nous-mêmes à mieux prier. Jésus a dit en Matthieu 6, je suis sûr que vous connaissez ce verset, versets 9 et 10, « Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et c'est quoi la première requête ? Que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête, que ton règne vienne. Et troisième, voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et je vous demande de trouver Romains chapitre 12 et nous allons considérer cette troisième requête. Comment prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Juste un aspect même de prier pour la volonté de Dieu. Jésus nous dit, il faut prier pour la volonté de Dieu. Il faut demander au Père, « Père, que ta volonté soit faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel. » Romains 12, premier verset, le Saint-Esprit nous parle par Paul et dit, « Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu. » C'est un résumé des 11 premiers chapitres. « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est quoi ? La volonté de Dieu. Nous devons prier que la volonté de Dieu soit faite ici sur terre. Et une de ces prières, c'est que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce passage, versets 1 et 2, vont très étroitement ensemble, commence donc par l'adoration. C'est un culte raisonnable que nous offrons à Dieu. Et ça termine ici par la volonté de Dieu. Et au milieu, il y a ce que nous offrons à Dieu, nos corps et nos esprits qui sont renouvelés. Et on voit dans ce passage que trouver la volonté de Dieu n'est pas simplement une question d'exégèse, de bien pouvoir comprendre la Bible. Non, il faut pouvoir donner son corps à Christ comme un sacrifice tous les jours. Il ne faut pas être conforme au siècle présent, mais plutôt transformé. Un culte raisonnable à Dieu est un culte qui n'est pas conforme à notre siècle, mais un qui est transformé. Et cette volonté de Dieu est, regardez la fin du verset 2, et ce qui est quoi ? Bon, agréable et parfait. Alors, comment trouver la volonté de Dieu ? Bon, on peut le trouver dans les impératifs. Jésus dit, par exemple, « Priez sans cesse ». Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est un impératif. Mais si vous avez des enfants, si vous avez eu des parents, vous savez bien que faire leur volonté ne se résume pas seulement à obéir aux impératifs. Un enfant aime bien dire, je suis sûr que je l'ai dit plein de fois, mais on ne m'a pas dit de faire ça. Mais un parent veut que l'enfant puisse croître au stade de sa maturité où il peut réfléchir lui-même. Imaginons qu'il est face à une nouvelle situation. Il dit, je n'ai pas de commandement pour cette situation. Non, peut-être pas, mais il peut réfléchir à ce que voudraient ses parents. Ce qui serait bon, agréable et parfait dans cette circonstance. Et c'est ce que Dieu le veut. Donc la volonté de Dieu est révélée par des impératifs, mais c'est aussi révélé par des adjectifs. Ici, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible va dire en Éphésiens 5 qu'il faut juger toutes choses et trouver ce qui est la volonté de Dieu. Il faut voir si c'est bon ou non. C'est révélé aussi par des comparaisons. Par exemple, où Dieu dit « Soyez saints car je suis saint ». Apparemment, si Dieu est une certaine chose, il désire qu'on le soit aussi. Donc, ouais, tu ne m'as pas dit d'être saint. Ouais, mais non, mais je suis saint, donc vous soyez saints. Tout ce qui est Dieu, dans des choses qu'il peut partager avec nous, il y a des attributs qu'il ne peut pas communiquer avec nous, mais des attributs qu'il peut, il veut que nous les ayons. Mais révélé ici par des adjectifs, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on va juste regarder le premier, ce qui est bon. On veut prier pour la volonté de Dieu, et donc on veut prier pour ce qui est bon. Et on va suivre un peu ce mot « bon » pour voir les domaines dans lesquels Dieu désire que nous fassions ce qui est bon. Alors on va trouver le contraire dans le même chapitre. Regardez un peu plus loin, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et le mot bien, c'est le même mot traduit bon au verset 2. Vous pouvez les lier si vous voulez. Attachez-vous fortement à ce qui est bon ou bien. Et donc le contraire de cela, c'est quoi? Ayez en horreur ce qui est mal ou mauvais, mais attachez-vous à ce qui est bon. Savons-nous ce que c'est de ressentir l'horreur vraiment face au mal? Que ça nous choque, ça nous dérange à l'intérieur. C'est ce que la Bible dit. Ayez en horreur le mal. Attachez-vous fortement au bien. Donc nous avons le mal et le bien. Et regardez le dernier verset du chapitre. Ne te laisse pas vaincre par quoi? Le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est le même mot, encore, traduit bon, au verset 2. Donc on a encore le contraste. C'est ce qu'on appelle dans des études bibliques une inclusio. C'est-à-dire, il y a les deux bouts, si vous voulez, l'entrée et la sortie, sont encadrés par les mêmes idées ou parfois les mêmes mots, comme ici. Quoique le mot « mal », ce n'est pas exactement le même mot, c'est un synonyme, mais c'est les mêmes idées. Et donc, tous entre les deux va en fait élargir sur ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il faut prier que la volonté de Dieu soit faite sur terre. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est bon ou bien. Qu'est-ce qui est bien? Alors, revenir sur le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en mal horreur, attachez-vous fortement au bien. Et quelqu'un se demande, il lit, il dit, mais qu'est-ce que donc ce qui est bien auquel nous devons nous attacher si fortement? Bonne question. Vous voulez la réponse? Vous n'êtes pas sûr. Regardez le verset 10. Voici ce qui est bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, ça serait le mal. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, ça serait le mal, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça serait le bien. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ça serait le mal. Ne rendez, verset 17, à personne le mal pour le mal, ça serait le mal, mais plutôt rechercher ce qui est bien, bon devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voici le mal encore, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais le bien. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça serait le bien. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par quoi ? Le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous devons prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bien. C'est le contraire de tout ce qui est mal. Et ici, vous avez toute une liste de requêtes de prière pour la volonté de Dieu. Hein? Si vous dites, je ne sais pas quoi prier, ben, ici, vous avez de quoi prier. Le thème de bien continue. Regardez le verset 13. Que toute personne... Chapitre 13, pardon, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et on retrouve le même mot « bon » deux fois dans le verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Vous voyez le contraste, bon, mauvais. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien, encore le même mot. Mais si tu fais le mal, ça c'est le contraire, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous voyez le contraste ? Bonne action ou mauvaise action, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Faites faire le bien ou faire le mal, au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ou comme dit la Bible en français courant, pour t'encourager à faire, à bien faire. C'est ça l'idée. C'est là pour t'encourager à faire le bien. Donc, nous pouvons prier que Dieu nous aide à faire le bien tel qu'il est révélé dans sa parole. Ce serait une prière selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose, non? Prier que Dieu nous aide à faire le bien tel qu'il est révélé dans sa parole. Parce que nous avons besoin de prier ça. Qui ici dit, moi je fais naturellement le bien. Vous savez qui dit ça? C'est les gens qui ne sont pas convertis. Il y en a plein. Ils pensent que naturellement, ils font le bien. Mais un vrai chrétien sait que ce n'est jamais le cas. Il va dire, je sais qu'il demeure en moi, c'est-à-dire dans ma chair, rien de bien. Et c'est le même mot, en fait. Mais nous allons aller un peu plus profond. On ne veut pas simplement prier qu'on fasse le bien. Mais regardez le chapitre 14. Quel est le sujet au chapitre 14? Regardez le verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et puis regardez le verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Donc toute la discussion du Romains 14 tourne autour de ce qu'on mange, ce qu'on boit et les jours qu'on observe ou non. Et bien sûr, toute discussion de Romains 14 doit tenir compte du fait qu'il suit Romains 12, 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ce n'est pas une discussion de notre, entre les degrés de conformité au monde actuel. Quelques-uns, parfois, le prennent comme ça. Romains 14, certaines personnes qui veulent se conformer au siècle présent et d'autres non, et Romains 14 parle de ces différences. Mais ce n'est pas ça du tout. Le grand sujet est sur les conclusions logiques d'une appartenance à la nouvelle alliance, pas un rapprochement à ce siècle présent. Le grand sujet du chapitre est le même qu'en 1 Corinthiens 8, 9 et 10, à savoir ce qu'on mange. C'est au verset 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. Et la conclusion du chapitre nous rappelle encore le sujet. Regardez la fin. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il ne s'agit pas de conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc c'est le sujet de ce qu'on mange et de certains jours, comme distingués des autres. C'est-à-dire des jours spéciaux qu'observaient les Juifs ou non. Et la grande application se trouve au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est la grande application. Qu'en fait, nos choix sont importants parce qu'on rendra compte à Dieu. Mais reprenons la lecture pour voir de quoi il parle et le lien avec ce qui est bien. On reprend verset 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui ne soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Alors le contexte, il faut toujours regarder le contexte, et le contexte est bien évidemment ce qu'on mange. On ne dit pas que l'adultère n'est pas impur. Il y a des choses qui sont bien évidemment impures. Mais quant à ce qu'on mange, il n'y a rien d'impur. C'est le même mot utilisé. Enfin, la foi d'avant que c'est utilisé, c'est en Actes 10, où Pierre dit à Dieu, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. » C'est ce même mot. Et Paul dit, un ancien pharisien, il dit, « Je sais qu'il n'y a rien de souillé. » Mais, verset 15, « Si pour un aliment, » donc nous sommes dans le contexte, bien le contexte de manger, « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Et c'est ici que nous retrouvons notre mot « bon ». Louis Scon dit ceci, « Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. » Mais reprenons le verset 16. Et je vais le lire dans la parole vivante. « Que ce qui est bon pour vous ne puisse pas être considéré comme mauvais par les autres. Ne leur donnez pas l'occasion de critiquer vos privilèges. » Ou écoutez la traduction Bible de Sommer. Que ce qui est bien pour vous, donc c'est bon. Et Paul va dire, tout est bon en fait. Tu peux manger ce que tu veux. Mais que ce qui est bon pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Pas seulement de chuter, mais de dire du mal de vous. Parole de vie. Ce que vous jugez bon pour vous, cela ne doit pas donner aux autres l'occasion de le trouver mauvais. Ça parle de quoi? Ça parle de notre témoignage. On juge quelque chose, on dit que c'est bon. Mais l'autre le trouve mauvais, mais c'est un aliment. Quand même. Soyons cool. C'est une boisson. J'ai droit aux boissons de mon choix. Ça parle de notre témoignage. Et la volonté de Dieu n'est pas seulement que nous fassions ce qui est bon, agréable et parfait, mais que ceux qui nous regardent, même les chrétiens les plus faibles, comme il dit au début, puissent trouver que ce que nous fassions est bon. Ça fait mal. Ça me fait mal, en tout cas. Ça pique. Mais c'est une requête de prière. Prions donc, deuxièmement, que Dieu nous aide à veiller à ce que notre témoignage soit toujours bon. Même notre témoignage, pour que tous les autres chrétiens puissent dire « Ah oui, ça, ce frère, ce qu'il fait est bon. » C'est important. Nous sommes dans une société où c'est chacun pour soi et je m'en fiche des autres. Et même, on arrive à l'adolescence, je m'en fiche de mes parents. J'ai le droit. Et Paul dit, non. Non, non, prions que Dieu nous donne un cœur que les autres même, qu'on considère plus faible que nous, puissent nous voir et dire aussi, c'est bon. Vous savez, il y a des choix, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on veut garder un bon témoignage entre les frères et sœurs. Mais ce n'est pas naturel. Il faut vraiment prier cela. Donc, on prie qu'on puisse faire le bien, on prie qu'on puisse avoir un témoignage qui est bien. Et dernièrement, prier dans ce contexte, que la volonté de Dieu soit faite sur terre. Regardez chapitre 15 en Romains. Et on suit encore ce même mot. Romains 15, premier verset. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. » Ah, pardon, j'ai mal lu. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Donc, il dit quelque chose de plus ici. Verset 2. « Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » C'est notre mot bien là, ou bon. « Car Christ n'a pas cherché quoi ? Ce qui lui plaisait. » Et c'est bien évidemment, s'il le cherchait, il ne serait jamais venu sur terre. Il n'est pas venu sur terre pour partir en vacances. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il a supporté les outrages. Regardez encore le verset 2, je vous lis dans la Bible de Semeur, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Donc là, ce n'est pas seulement le bien. Ce n'est pas seulement un bon témoignage, mais non, on cherche le bien de l'autre. On cherche le bien de l'autre. Donc, troisièmement, prions que Dieu nous aide à rechercher ce qui est bon pour l'autre. Ça devrait être notre philosophie. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien ? Bon, dit, c'est pas mauvais. Pour certains, ça suffit. Mais ce n'est pas la pensée de Christ, mes amis. La pensée de Christ ne s'arrête jamais là. C'est un bon premier pas. Mais la pensée de Christ dit, déjà, en Romains 12, on a tout ce qui est bien, toute cette liste. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire, est-ce que c'est bon pour mon témoignage? Et il faut aller encore plus loin. Est-ce que c'est bien pour l'autre? Voilà. Et un parent d'un nouveau-né, ce que c'est ? Le bébé crie à 2h du matin. On ne se lève pas par envie. On sait que c'est pour le bien de l'autre. Et donc on le fait. Et peut-être on ne se sent pas très spirituel en le faisant, mais on le fait quand même. Et c'est l'amour. Et c'est la même attitude que nous devons avoir les uns pour les autres. On veut faire le bien des uns et des autres. Mais pour cela, il faut prier. D'accord, là, j'arrête là, mais reprenons juste pour nous rappeler ces trois choses. On prie qu'on puisse faire le bien, comme révélé dans la parole de Dieu. On prie aussi qu'on puisse avoir un témoignage qui est bien aux yeux des autres chrétiens. Et on prie, troisièmement, qu'on puisse rechercher le bien des autres. Ici, c'est dans le contexte de l'Église, hein, des autres chrétiens. Et si Dieu travaille cela en nous, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est bien, agréable et parfait. Voilà.